des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Bouterfa.
À 300 km au sud d'Alger se trouve Djelfa. C'est probablement l'une des portes du sud de l'Algérie, la moins connue, tout au moins jusqu'à ce qu'elle devienne la route du pétrole. Auparavant, Djelfa, c'était une étape des nomades du sud, remontant vers le Tell en période de transhumance, en passant par les hauts plateaux. C'est en dehors de la chaîne de l'Atlas saharien, de la frontière marocaine jusqu'à la dépression du Hodna, des monts d'Erzour, du Djebel Amour et des Ouled Neïm. Entre ces chaînes, se sont formées des plaines d'alluvions comme celle de Djelfa, 110 mètres d'altitude qui facilitent le passage de l'Atlas vers les hauts plateaux du nord du Sahara au sud. Ce qui explique que l'homme s'y est installé depuis les temps préhistoriques, nous laissant en témoignage des outils de pierre, des gravures rupestres, des tombeaux en forme de dolmen, ceux des premiers berbères. La région de Djelfa est habitée par la grande tribu des Ouled Naïl, laquelle est divisée en deux grandes fractions, les Ouled Chelaga à l'est et les Ouled de Chalalba à l'ouest. Ces deux fractions se divisent à leur tour en plusieurs fractions. Qui était Mohamed Ben Abdallah Al-Khalchoufi, plus connu sous le nom de Sidi Naïl? Suscite-t-il la polémique? Viendrait-il de l'Andalousie ou alors de Sarriyad al-Hamra, province de la côte occidentale du Maroc? L'histoire retiendra, quand il fut en âge, il partit en quête de science, de sagesse et de fortune. Il arriva d'abord à Miliana où il se mit à l'école de Sidi Ahmed Ben Youssef. Homme vénéré, il resta quelques années et fut un élève modèle. Finalement, le Cheikh voulut éprouver ses élèves et leur annonça que, sur une révélation particulière, il allait immoler ceux d'entre eux qui accepteraient de faire le sacrifice de leur personne. La plupart s'enfuirent, il n'en resta que sept et le futur Sidi Naïl fut de ceux-ci. Il s'en tira même mieux que les autres et Sidi Ahmed lui donna sa bénédiction. Tu seras saint et protecteur, tes enfants auront le ciel comme couche et comme couvert, de visage doux, ils mèneront les hommes comme on mène des troupeaux de moutons. À la suite de quoi, Mohamed Ben Abdallah fut nommé Naïl parce qu'il avait obtenu Naila en arabe, cela veut dire bénédiction.
فهمتيني وعلاش رخصت في السوم واش يجيب اللي مهول الرايح الفوت الكانت بعني مرسوم ايام الشدة تفوت ونولي رايح
Djilali Ould Sofrani, journaliste à la Nouvelle République, arrière-petit-fils d'un notable résistant qui était le marhoum Telli Belkhal. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. La première histoire, qui était cet arrière-grand-père
تلي بالك حل بن حرفوش بن الاخضر بن شريك بن سي احمد بن محمد اكسيتيرا مون اريير غران بير سيتي لو شيف دي زارمي سيتي لو كايد دي زارمي باسكو سيتي انسي كلاسي اي سي شريف بن الحرش ايتي لو خليفه دي ولاد نيل اوبري دو الامير عبد القادر لورسكو il est revenu Sichri Blaharach avec son père Bilgendouz de Gris et ils avaient publicité l'émir Abdelkader en tant que chef des armées, la Moubaya. Donc après le retour, c'est Bilgendouz qui était vieux, Sichri Blaharach qui était jeune. Et Tlib Likhal avait une certaine renommée parce qu'il avait tenu tête, il avait tenu tête à l'Empire ottoman lors de la collecte des impôts abusifs. La collecte abusive des impôts, à chaque fois, il matait, il avait exterminé des mahalas, c'est les percepteurs d'impôts ottomans.
Alors on reviendra justement à l'époque ottomane. L'étymologie du nom Djelfa.
Djelfa ou bien Djelfa. Il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions qui sont faites d'une manière exprès pour un petit peu dénaturer la région et la bonté des gens. Notamment, lorsqu'on dit Djelfa, dans certaines définitions que j'ai lues par-ci par-là, Djelfa c'est le craquement de la terre. Djelfa. Il y a d'autres qui disent que Djelfa, c'est un rapport avec la peau des grenades, Djelfa romane. Il y a ceux qui disent que Djelfa, c'est issu d'une histoire où il y avait des passagers qui se sont arrêtés à l'endroit et puis ils avaient consommé une pastèque. Et l'un d'eux avait oublié son couteau plus loin, après une ou deux journées de marche, il s'est rendu compte que son couteau ou bien son poignard n'existait plus. Il avait demandé à son copain où est-ce qu'il est mon poignard. Il lui a dit que khlitou lesq fi Djelfa, c'est-à-dire fi l'qchra ta' Abdellah. Tout ça, c'est, oui. ça ne colle pas avec la nature culturelle de l'utilisation des mots. Par contre, dans l'arabe, comment qu'on exprime que la brebis ou bien la jument, elle a pris? Parce qu'il faudrait que vous sachiez que Djelfa, la ville, elle est récente, et c'était un coin de transhumance, c'était la halte des transhumants. Il y a les deux transhumances, la transhumance d'hiver et la transhumance d'été, et pour la halte des transhumants, des bedouins qui avaient leurs chèvres, leurs brebis, leurs moutons et surtout leurs chameaux, le bayel, c'est-à-dire c'est eux qui sont les nomades. Donc ils s'arrêtaient pour prendre des forces eux-mêmes, parce qu'il leur fallait un repos. Il y a la traversée des hauts plateaux qui est un petit peu difficile, et puis il y a la traversée du désert qui est encore plus difficile. Et c'est le moment aussi où l'on fait la tonte des moutons. Donc ici, voilà ces gens-là, la terre, il y avait dans cet endroit des pâturages gras, et il permettait aux brebis de reprendre des forces, parce que c'est la brebis qui est le principal animal, et au moment où elle prenait, elle ne rejetait pas son annuelée, et la jument aussi, lorsqu'elle ne rejetait pas sa pouliche ou son poulichon, on dit d'elle, Djelfet, c'est-à-dire un sens plein de vie, plein d'amour, plein de continuité. Donc moi je crois que c'est la définition la plus plausible. Djelfa, Djelafa, c'est l'endroit où il y a la vie, où il y a la procréation, etc.
Alors, Djilali Ould Soufrani, il y a une tribu prédominante ici à Djelfa, et d'après donc des écrits d'Arnaud de 1872, Sidi Nail, de son vrai nom Mohamed Ben Abdallah Al-Khashoufi, il serait né à Figig, dans l'Oasis du Maroc, près de la frontière algérienne, à l'époque où les Arabes étaient chassés d'Espagne. Il aurait été gouverneur de Serkat al-Hamra, la province de la côte occidentale du Maroc, et il jouissait auprès de son souverain, Hassan, d'une haute considération due à ses éminentes qualités. Ça, ce sont des écrits. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça?
D'abord, il y a une chose qu'il faudrait préciser. Les écrits, et en particulier le Makhtoutat, ont subi des agressions bien précises, et ils ont été détruits par l'armée coloniale parce qu'ils avaient bien étudié la situation, la population et la société. Concernant Sidi Nail, c'est Mohamed ibn Abdallah al-Khulshoufi, qui est descendant d'Idriss, l'Akbar, et qui est descendant aussi de Sayyid Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhou, et Fatim Zahra, radiyallahu anha, bint Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont descendants de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'église, d'ailleurs, il y a une lettre qui a été lue aux officiers qui leur disait que le bon Dieu leur pardonnera leur parjure et leur faux témoignage, mais faites-le contre les Ouled Neil parce qu'ils sont descendants de Mahomet. Donc tous les écrits qui sont faits sur Al-Nabi, c'est-à-dire les descendants de Neil ou bien des Idrissides, c'est des écrits tendancieux. On donne une date précise, on donne un nom précis, mais on déforme complètement la réalité. Abdallah al-Khurshoufi, d'abord, qui est-il? Abdallah al-Khurshoufi, c'est le dernier prince qui a gouverné Ishbilia pendant 44 ans. Donc, en Andalousie, il avait gouverné Ishbilia. Et puis, lorsqu'ils ont été chassés d'Espagne, comme il le dit, parce que lorsqu'ils ont perdu la guerre en Espagne, et ils sont revenus. Ils sont revenus à Alger, la famille de Abdallah al-Khurshoufi, avec toute la cour, les services techniques, etc. Ils se sont scindés. Il y a une partie qui s'est installée à Sid Ahmed al-Kbir, Allah yarhamo, à Blida, fil Blida, kanu ismou al Blida, ba'd wallat al Blida, où c'était ses cuisiniers, les couturiers, les musiciens, etc. D'où à Blida. Il y a cette culture qui est... Et Sidi Nail, c'est Machi Nail, Mohamed ibn Abdallah al-Khurshoufi, avec sa famille, son père, sa maman, etc., ils ont été accueillis par Sidi Ahmed ibn Youssef à Miliana. Ou Siknawi, Nail, ou Fraj, les frères, ou Abdurrahman, ont été les disciples de Sidi Ahmed ibn Youssef. Ils ont appris le Coran ou le tafsir ou le hadith andou. Ils disent que Sidi Nail, Mohamed ibn Abdallah al-Khurshoufi, khatm le Coran, c'est-à-dire il a terminé d'apprendre le Coran à l'âge de 7 ans. Moi, je vois mal comment qu'il y ait un rapport chronologique ma figig ma l'akhor. Il y a un problème qui se pose. Il faudrait que les gens revisitent l'histoire, que les gens qui ont des makhtoutat, on sait bien qu'il y a des gens qui ont des écrits, qu'ils gardent jalousement, qu'ils essayent de faire un travail.
Alors, Djilali Ould Soufrani, justement, vous êtes un peu d'accord avec les écrits de Arnaud qui ont été faits en 1871 en disant qu'ils viennent d'Andalousie, c'est le 15e siècle, mais certains écrivains ne le sont pas parce qu'ils disent qu'ici, à Djelfa, il n'y a rien d'andalou, c'est-à-dire il n'y a pas une artisanat, il n'y avait pas une musique qui ressemblait un peu à l'Andalousie.
Il y a une chose qu'il faudrait il faudrait revenir à l'évidence. Abdallah al-Khurshoufi était un émir. Un émir, donc ce n'est pas lui qui fait la cuisine, ni lui, ni sa femme.
Il est venu avec des gens.
Il est venu avec des gens. les gens qui l'ont soutenu, les gens qui faisaient partie de son palais royal, etc., ou le provincial, ils sont restés à Blida. Quand il est revenu, بعد تكلى على روحه بالك كلامك لا كاع ماشي مليحه parce que ما طيبولوش مليح ولا هذه من جهه
non peut-être que je me suis mal fait comprendre, c'est-à-dire que aujourd'hui à Djelfa, il y a aucune trace ni la musique ni la manière d'être andalouse. Voilà, c'est tout.
Non, quand il est venu, lorsqu'il a terminé son apprentissage et ses études عند سيد احمد بن يوسف, il a été imam salawat al-khams, c'est-à-dire les cinq prières à Alger, fil jam' al-kbir. OK? Et puis, il ne s'est pas entendu avec le gouvernement. Il faisait des prêches un petit peu qui n'étaient pas en accord avec les gouvernants. L'ensemble des imams, etc., ils lui ont demandé, même ils ont été demandés à Sid Ahmed Ben Youssef de lui demander d'aller vers les hauts plateaux. Et c'est Sid Ahmed Ben Youssef qui lui a ordonné d'aller vers les hauts plateaux. Et c'est vers les hauts plateaux qu'il est venu. Sidi Naïl n'a jamais connu Djelfa. Sidi Naïl n'a pas dépassé Ain Lahjel ou Adrish. Ain Rish ou le nord de la wilaya Djelfa, c'est-à-dire ce qu'il y a en limite entre Msila, Djelfa, Médéa, etc.
Donc Ain Lahjel où il est enterré?
Ain Lahjel où il est enterré chez Ahmadet Sidi Naïl. D'abord, la place, on l'appelle Ahmadet Sidi Naïl maintenant. C'est dernièrement, c'est lors de la dernière décade, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, que son tombeau a été restauré, sa tombe a été restaurée. Il y a eu un petit mur qui a été construit autour, etc. Parce que dans la tradition, dans la famille du prophète et de tous les musulmans, il n'est pas nécessaire de construire des tombes avec des écrits, etc., sigils, voilà, un petit peu.
Qu'importe d'où il vient, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à Djelfa, il y a la fierté d'être sa descendance, de Len Neil.
D'abord,
c'est... parcours aussi. Quel a été son parcours?
D'abord, si vous voyez, vous m'appelez avec mon prénom, et Wild Sofrani. Moi, je suis très fier d'être Wild Sofrani, Ben Ahmed, Ben Sofrani, Ben Telli, Ben, etc. J'ai une descendance à laquelle j'appartiens. Et il y a beaucoup de gens qui s'apparentent à la région et ils ne s'apparentent pas à leur saint. Ils ne s'apparentent pas au leur. Hein? Voilà. Le parcours de Sidi Naïl, il y a très peu même, trop peu d'écrit, et il n'y a presque pas d'écrit. Il y a des chers melhoun qui restent comme vestiges, et puis il y a la tradition orale. Et la tradition orale, la transmission orale de l'histoire, elle est parfois cassé au milieu par c'est comme une chaîne, et lorsqu'il y a un anneau qui casse, donc elle peut être remise en cause. Quant à la fierté proclamée, parfois un petit peu elle dépasse les exacerbés d'appartenir à Sidi Naïl. Tout le monde qui appartient à la lignée de Sidi Naïl, il y a même des gens qui n'appartiennent pas génétiquement à Sidi Naïl, mais comme ils ont été sous le protectorat de Sidi Naïl, qui ont été aidés. D'ailleurs, Sidi Naïl, il leur a légué des héritages au même titre que ses enfants, donc il est juste, etc. Mais la fierté fait qu'ils sont de El Nabi, Sidi Naïl est descendant du prophète. C'est pour cela que les gens sont fiers. Et puis, il y a d'autres comportements, etc. Des comportements d'hospitalité, des comportements de sagesse, des comportements où les gens font le mi'ad, c'est-à-dire il y a la parole encore qui tient, voilà, un petit peu. Donc, pour vous dire plutôt en résumé que je suis un homme de l'hospitalité, un homme d'al-mi'ad, je suis descendant du prophète, et voilà.
Djelali Oud Sofrani, donc, il arrive juste après la chute de Grenade, c'est-à-dire au XVe siècle. il a beaucoup voyagé et c'est à et c'est donc sur le plan patrimoine, c'est Djelfa et un peu Bousada qui il appartient à ces deux villes.
Sidi Nail, il appartient à tous les descendants et tous les gens qui se sont proclamés de son appartenance. Sidi Nail, il appartient à Ouled Djellal, il appartient à Alger, il appartient à Bourj Mneil, il appartient à Zazga où est enterré son frère, il appartient à tous les gens qui sont nés de Ben Abdeslam Ben Bchich, qui sont nés, voilà, des Adarissa, etc. Mm-hmm. Voilà.
Djellal et Ould Sfrani, donc deux tribus, on sait qu'il y a la tribu, la fraction et la sous-fraction, mais il y a les Sahari. Les Sahari, donc on raconte, on dit qu'ils étaient alliés au pharaon Ben Mahsem, roi d'Égypte, et paraît-il qu'ils faisaient de la magie, le sihr. Ils l'ensorcelèrent même, ça c'est l'histoire, hein, Pharaon, et le peuple égyptien se fâcha contre eux et durent s'enfuir vers l'ouest. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ça?
Autant que les autres, autant que toutes les autres communautés. Il y a aussi, il n'y a pas que les Sahari, il y a les Abazis qui occupent le terrain, il y a Mouadad Graba, Mouadad Chraga, Rahman Graba, Rahman Chraga. Il y a toutes ces communautés, il y a l'Amourine, il y a Al-Znina, il y a tous ces gens-là qui habitent ces territoires que couvre la wilaya de Djelfa. Les Sahari, par contre, ils ont essayé, les gens qui ont écrit, les missionnaires, parce que c'était des officiers, en même temps, aumôniers, missionnaires, et ils avaient ordre d'écrire et de diviser le peuple algérien. Les Sahari, c'est vrai qu'ils sont d'origine d'Égypte, selon les rares informations que nous avons, mais ils font partie des armées des Fatimides lorsqu'ils sont venus pour corriger, entre guillemets, je le dis, s'il y a un Ibadite qui m'écoute, le Dawla Rostomia à Tiaret, d'ailleurs, c'est eux qui ont un petit peu. Et puis, ils ont poursuivi les Ibadites vers l'Ataf, vers le côté de Ghardaya, hein, l'Ataf, et une partie qui est restée là-bas à Chamba, il y a une autre partie qui est à Lagouat, une autre partie qui est partie sur Rouessat, mais il y a une partie qui est restée ici. Voici les Sahari. Par contre, dire qu'ils sont des sorciers, etc., c'est trop dire pour eux. Ils sont pauvres, les gens, ils sont très humains. Ceux qui sont venus d'Égypte, ceux qui sont revenus d'Égypte, parce qu'il faudrait replacer l'histoire dans son contexte. Les pharaons égyptiens, lorsqu'ils avaient envie de construire, ou bien ils prévoyaient de construire un temple ou une pyramide ou n'importe quoi, ils venaient, la réquisition, prendre en guise d'impôt la main-d'œuvre de Kabylie, de l'Atlas saharien, des Terguis, de tout. Et ils ont, d'ailleurs, c'est l'histoire de l'Idrissia, de Constantine, de Ternif, de Palikao, ce qu'on appelle. Les gens, ils ont rencontré le Sahab Sidna Moussa, Moïse, alayhi salam. Et ils ont pris comme religion la religion de Moïse. Et en revenant, ils se sont cachés. Mais là, c'est particulier aux gens de Znina. Et Znina existe depuis 4500 jusqu'à 5000 ans. Il y a toujours les écrits qui s'appellent aujourd'hui l'Idrissia.
Il fut un temps, l'histoire a retenu que les Sahari étaient plus puissants que les Ouled Nail.
C'est tout à fait normal, parce que Sidi Nail, quand il est venu, les Sahari ne sont pas polygames. Et Sidi Nail, la descendance Taou sont polygames. Ok? Et les Sahari, la communauté ne s'est pas trop développée en nombre. C'est vrai que les premiers temps, Sidi Nail, lorsqu'il est venu tout seul. On n'est pas les descendants et les tribus de Sidi Nail ne sont pas venus en bloc. C'est tout à fait normal qu'ils étaient nombreux et les Ouled Nail étaient le nombre de dirhams, il était infime, et puis il a commencé à se développer avec la polygamie, etc., à tel point qu'aujourd'hui, avec ceux qui sont sous le protectorat, c'est-à-dire qui portent les Tbennaham, Sidi Nail et les vrais Ouled Nail, ils sont aux environs de 9 600 000 jusqu'à 10 millions, en partant de Lwanza, où il y a une très forte communauté, des Ouled Harka, des Ouled Jellal, des Ouled Fraj. Il y a même un Kabili Abdelrahman Khoussidi Nail qui a des enfants, mais ils ne sont pas inscrits sur les Ouled Nail, c'est des Kabiles maintenant, ça y est.
On va parler très peu sur la période ottomane. Comment était Jelfa, les Ottomans, ils étaient là, quelle était la relation?
Jelfa, elle était gérée par le bey de Médéa, le beylik de Médéa. Et le beylik prélevait des impôts, ce qu'ils appelaient le bzra. Le bzra, les impôts, et les percepteurs s'appelaient le mahala. Comme les Ouled Nail étaient des nomades, donc, ils n'étaient pas fixes dans un endroit pour qu'on puisse les identifier, etc. Mais le Mahala venait encercler le Dawar, l'aïra de l'ensemble des tentes en forme de cercle, et puis il prenait de force soit leur victuaille, soit leur bestiaux, soit leurs chevaux, soit leur moutons en guise d'impôt. Voilà, un petit peu. Mais ils se sont toujours soulevés contre le Mahala. À chaque fois qu'il y a une équipe de percepteurs qui vient ici, rare est l'équipe des Mahala qui repartait. Mm-hmm. Il y avait Talib el-Khal, il y avait Tabl el-Nahas, et il y avait quelqu'un de très grand, ce qu'on appelle Ra'ash. Ra'ash qui s'est dégagé comme objectif de défendre les Ouled Nail avec un petit groupe, et à chaque fois ils étaient aux aguets et ils cherchaient les Mahala où ils les positionnaient, et puis ils les attaquaient pour les exterminer.
On va maintenant passer à la période coloniale. La ville a été créée par Napoléon III en février 1861.
Jelfa, elle a été créée le 20 février 1861. Mais comment? Jelfa, auparavant, ce n'était qu'un parcours de pâturage, ou bien c'était une plaine où il y avait le pâturage, le gras. Et lorsque Talib el-Khal avec Moulay el-Hassan, ils ont libéré la ville de la Ouatt, parce que la vraie ville de toute la région, il y avait deux villes, il y avait trois villes, mais deux villes importantes, il y avait la Ouatt et Boussada. Donc, en libérant la Ouatt, les militaires qui se sont sauvés, qui ont survécu à la Ouatt, ils sont venus à cet endroit, ils ont installé un bivouac et se sont organisés pour contrecarrer. Ils ont repris des forces d'abord à Jelfa, ils se sont réorganisés, ils ont fait appel à Boisse Gilbert, au général Youssouf, toutes les colonnes, il y avait 12 000 hommes, et ils ont engagé une dernière bataille en décembre 1852, et ils ont repris la Ouatt. Mais c'était à peu et à sang, et il y a eu beaucoup de morts. Et d'ailleurs, à la Ouatt, il y a un cimetière qu'on appelle le cimetière d'Eoulet Sihmed, d'où est issu Talib el-Khal. Mais Talib el-Khal, il était blessé, et il a été vers la Zawiya de Sidi Belkhir à Ouargla, où il s'est soigné. Et puis il a repris ses armes, et il a continué de lutter contre la France jusqu'à sa mort. Parce que Talib el-Khal n'avait pas entériné le traité de la Tafna. Oui. Il avait refusé d'entériner le traité de la Tafna.
Si j'ai bien compris, c'était une base arrière militaire ici, Jelfa. Ils ont fini par la construire. Est-ce qu'elle a connu des expropriations de terres agricoles?
C'est ça le principal. D'abord, à Jelfa, il n'y avait pas de propriété, parce que la propriété, elle appartient aux sédentaires. Mais les Jelfaouis étaient des nomades, ils avaient leur tente, leur cheptel, et puis les Ouled Nail, et ils se déplaçaient. Sauf les ulama qui étaient installés à Zaafran, à Idrissia, ou bien, petite partie, à El Ma'bed, ou bien à Msad et Zakar. C'était les principaux bourgs, petites cités ou bien grandes cités, qui étaient habités par les Ouled Nail. Mais en général, c'était des gens qui s'appropriaient la terre le temps du pâturage. Et elle ne lui appartient plus, c'est le remplaçant qui devient l'éleveur qui ramène son troupeau, qui devient propriétaire. Les Ouled Naïl s'apparentent à leur sein et pas à leur terre. Donc on revient à la question, cette précision. Lorsque les Français sont venus, le colonialisme français, il est venu, il s'est installé et puis il a dégagé un plan, la décision prise par Napoléon de créer un village qui s'appelle Djelfa, comme l'appellent les gens de la région, qui situait entre Médéa et La Gouate, à 200 km au sud de Médéa et 100 km au nord de La Gouate, c'était ça à peu près. Et il y avait les gens qui se sont installés, puis il y avait un forgeron, il y avait un prêtre, il y avait des aumôniers, des militaires. À partir de là, Napoléon, il avait dégagé 1775 hectares, etc., qu'il fallait répartir entre les colons et construire dans cette région pour, à partir des impôts. Et puis il y avait eu, juste après, la loi sur le senatus consulte. Ils ne pouvaient pas contenir les Ouled Naïl parce qu'ils étaient en mouvement dynamique perpétuel. Donc on ne pouvait pas les installer, on ne pouvait pas les répertorier, comme ils disent, c'est comme de la marchandise. Donc ils ont été vers les parcours de pâturage. Ici se trouvent les Ouled Sihmed, on leur donne cette partie du terrain, là où il y a une tente des Ouled Sihmed, là où il y a une tente des Ouled Taba, on leur donne ce terrain. Et ils leur ont interdit de quitter ces territoires.
Ils les ont sédentarisés.
Ils les ont sédentarisés de force. Paqués, pas simplement cantonnés, ils les ont paqués.
Justement, puisqu'on parle des procédés de l'administration coloniale, beaucoup d'écrits, même des plasticiens, ont fait de cette tribu, en l'occurrence les femmes, comme des femmes
de mœurs légères,
où c'était la perdition, alors que l'histoire a parfois révélé comme de grands seigneurs, de grands combattants.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant le départ vers la conquête de l'Algérie, comme ils le disent les Français, Napoléon, etc., ils se sont réunis à Bobigny dans une église. Et ils ont lu une messe, puis un presse, ils leur ont fait un presse aux officiers aumôniers d'entretenir dans leurs journaux qu'il fallait diviser la population, dire du mauvais de certaines populations pour que l'autre s'en moque, et dire du mauvais d'une autre population pour qu'elle s'affaiblisse, pour qu'elle devienne une tare pour eux, et il faudrait qu'ils se cachent la tête lorsqu'ils marchent. Ce qu'on appelle chez nous ici à Djelfa, Barnos el-Bakhs. Et Fromentin, et Henri Lot, et tous ces gens-là qui sont venus, ils ont axé, si vous avez remarqué, axé leur écrit uniquement sur la femme. Et comme vous venez de le dire, c'était des grands guerriers, des grands combattants, le grand guerrier, le grand combattant, il a son honneur, ce sont des gens d'honneur, ils ne vont pas se marier avec des femmes à mœurs légères. Par contre, ils ont appauvri la région. Ils ont tué les hommes. Ils les ont réduits à la misère. Et il arrive que parfois, qu'il y ait des femmes qui s'adonnent à la prostitution, je le dis, je m'excuse auprès des auditeurs, mais c'est ça. Mais si vous remarquez, moi je vous renvoie sur Fromentin lorsqu'il dit à La Gouate, lorsqu'il est arrivé, après la reprise de La Gouate, qu'il a été dans une maison close où se trouvaient des néliettes blanches, des néliettes noires. Est-ce qu'il y a des néliettes noires? Non. Il y avait des pauvres femmes qui avaient besoin de manger et on essayait de coller tout aux néliettes. Par contre, il y avait des juives pour les mêmes raisons qui faisaient ce boulot, ce sale boulot, et on est responsable, c'est l'État français qui a paupérisé, qui a appauvri la population pour les pousser dans le dernier métier pour survivre.
Djilali Oul Sofrani, à propos justement des défis d'Ouled Naïl, on ne les a pas réhabilités, il n'y a pas eu d'auteur algérien pour écrire l'histoire. J'ai seulement perçu un écrit que Assia Djebar a écrit, voilà, en leur redonnant toute la valeur et la dimension.
C'est malheureux. Et là, je lance un appel à tous ceux qui sont en capacité d'écrire et de décrire. qu'il le fasse, qu'il réhabilite la vérité, qu'il réhabilite la vérité. Le monde aujourd'hui appartient à tout le monde, mais on ne peut pas admettre que et prendre comme référence les écrits de ces colons qui étaient mal intentionnés. Parce que nos religions sont différentes, c'était beaucoup plus la religion qui était leur... le fait de casser la religion musulmane qui était leur objectif. Par contre, Assia Djebbar, il faudrait... Pas simplement Assia Djebbar. Moi, je pense à Malika Hached. Si tu m'écoutes, Malika, tu as le petit coucou de tous les Ouled Nail. Malika Hached, qui a beaucoup écrit sur la région. Elle n'a pas écrit sur les femmes. Mais Assia Djebbar, elle a ouvert la porte que l'on écrive, que les générations actuelles ne sont pas responsables de l'histoire, même s'il y a des Français. Parce que cette lettre qui a été utilisée par une chercheuse au CNRS français qui est à Bordeaux, cette lettre de l'Église envoyée à tous les officiers, aumôniers, etc., pour dire du mal des Ouled Nail, elle a été publiée dans une recherche historique en France. On essaie de mettre la chape de plomb dessus. Celui qui voudra, en fin de compte, tuer le poussin dans l'œuf, on est le digne héritier des assassins d'hier.
العرش المقبول ما زال في نيتهم بيضا اللبابة يا لقد دوب مكحلهم ذاك العرش المقبول ما زال في نيتهم ديما شملو مجمول تطيب لك عشرتهم أهل الحكمة وعقول وشبان وشايبهم بيضا اللبابة يا لقد دوب مكحلهم ذاك العرش المقبول ومازال في نيتهم فرسان على الخيل الجول هذيك هي عادتهم يشفوا القلب المحلول ويا برا على شوفتهم بيضا اللبابة يا لقد دوب مكحلهم ذاك العرش المقبول ومازال في نيتهم حرات خلف المرحول والزين وقواتهم ذوك بنات الأصول غزلات الوصفهم
Julia, un surnom qui lui va bien avec un parcours plus ou moins chaotique, chanteuse de variété, ici à Jelfa. Elle privilégie le genre Naïli, qui a retrouvé ses lettres de noblesse avec un sourire mi-ange, mi-moqueur. Elle est fière de nous dire que le Naïli a trouvé de nouveaux adeptes et pas les moindres.
تبغي عبدي جالسك ليلى ويمل وتكره مني راضيك طول الليالي ولا تعشق لا تعشق مراه منك مضيل وجاء في من جفاك يا من يهوالي كاس الحب صعيب كاس الحب صعيب كاس الحب صعيب اشرب ويقتل يقتل يقتل ياسر من خلاه مسقم وقبالي
تك صحة جوليا الاستخبار تعمل الاستخبار
هذو كلمات شوية شوية راهم شوية تعدوا هذو من جلفة أصلا بالتحديد من كومين يسموها مزعد كلمات تاع البلاد أصلا بوصو
نو أغضو تاع التقاليد
تاع التقاليد وهذه مرا كانت تغني على راجلها بيان سور وكان يعزها ويدير لها المال ويزهيها بالذهب والدنيا وهي ما تحبش اللي دلها بالك النايليه
Alors, nous sommes chez Julia ici, elle nous a reçus très gentiment chez elle. Julia qui chante le Naïli. Le Naïli qui est un genre ici, un genre de chanson que l'on trouve ici à Jelfa. Un genre saharien, mais qui a une particularité. Si tu veux différencier entre les chansons de la Sahara et le Naïli, qu'est-ce qu'il y a de différence entre eux?
اولا مرحبا بكم كما يقولوا الضيف اللي جيتنا قرب يا الضيف اللي جيت المغرب الزوجه النيلي هو جزء من تراث صحراء كامل هو جزء لكن يخص الجلفه لكن يمشي في الصحراء ياسر ونظن راه تعدى اكثر من الصحراء كما الجزائر ولا الثانيه
جوليا لو نيلي اون لو شانت depuis دي لونتان Et on le chantait dans les familles, on le chantait à l'arès, on le chantait un peu partout. Mais vous êtes aujourd'hui la promotrice du chant d'Aïli.
En fait, j'ai travaillé avec mon fils de Jelfa, et j'ai travaillé avec Yasser. Et j'ai travaillé avec lui à l'extérieur. Je ne savais pas ce qu'il y a, je ne savais pas ce qu'il y a, je ne savais pas ce qu'il y a. Après, j'ai travaillé avec ma fille Sonia. ومن بعد دخلت للجزائر وعاودت سكنت هنايا كيما وليت مع الاول وعرفت وش قررت بيني بين نفسي بلي نعاود نرجع للفن من بعد ما زوجت وجبت بنتي عاودت رجعت للفن لكن دخلت كيما نقولوا بطريقه كيما نقولوا محترفه وخدمت اول شريط كان مع ايديسيون اطلس سوقها لي وعدني بلي سوق على مستوى الجزائر وفعلا في نهار فريت كانت لا كاسيت ديجا منتشره في انحاء القدر الجزائري الشيء اللي كنا معناها ما كناش متوقعين النجاح هذا ان شاء الله
Julia, on trouve vos cassettes, des CD, on vous voit à la télévision chantant le Naïli. On a compris que vous chantez un peu les chansons de terroir. Est-ce que vous avez un compositeur actuellement qui vous écrit toujours dans le genre Naïli ?
فالحق انا جربت شعارة باش يكتبوا لي الكلام لكن للاسف شديد بصح السر مانيش عارفه وين راه كي نجبد حوايج قدم قصايد من التراث ونبذل فيه مجهود باش نجيب غنيات كيما تقدر تقولي حتى نبحث باش نجيب هذيك حبه ديامو وبعد نتحفها ونعدلها وهكذا ونديرها في دون ان كادر يليق بها كما يقولوا ونخرجها ما فيها نجاح مع الشعارة للاسف يكتبوا مليح بصح ما نجح لي
فضل كان جو اوسي لو نايلي يتطور شويه يعني كيفاش ديري
في الحق هذا السؤال الله يحفظك اللي سالته لي بيسكو راه الناس مش فاهمه جوليا عندها عامين ولا ثلاثه هي غايبه على الساحه الفنيه من ناحيه لاكاسيت من ناحيه التلفزيون الناس واش راهم يقولوا قالوا جوليا ما تمشيش قالوا لاكاسيت تاعها ما كذاش بالعكس انا عطيت الفرصه لشباب اخرين يبانوا مثل نيله مثل زملاتي الحمد لله وخدموا بيان ونحترم خدمتهم للاسف الشديد ما كاش حاجه جديده خدمت لكن انا نحوس على الجديد عامين ولا ثلاثه ما كنتش غايبه راح نقول الجمهور تاعي انا اللي نبحث انا اللي نبذل في مجهود انا نسجلوا في دي كاسيت نجيب في دي زارونجور من كل بلاصه باش يخدمونا حاجه واحده مش وحده مش حنبدلوه لكن كيفاش نطوروه وهذا الشيء هو اللي معناها الضريبه تاع ضريبه باش ناخذوا من نايلي حاجه ازين واني هذه الكلمه نقول ازين اصحاب الجرفه باش يفهموني املح وحاجه تعود كيما الراي بوكو با لي دار الشاب خالد ما كانش الراي هذا هو تطور بون هذا ربما راني نسعى باش نطوره اكثر واكثر حتى والحمد لله صفى درجه لكن انا نشوف فيهم ما كانش اللي دار خطوه واحده ودار ديك واش اللي داروا تكليب درناه لي كاسيت سوقناه لي زيج دور درناهم الكلام وتعرف على مسوغاج واش باغي يزيد نحوسوا نطوروه حوسوا نمشوه اكثر ما حبش يزيد خطوه للامام ماشي اللي كاع انا والزملاء تاعي راه في بلاصه واحده الشيء الفرق اللي بيني وبينهم اني نبحث في اتجاه دركا اتجاه ثاني
Julia, est-ce qu'on peut dire que le genre Naïli est sorti des frontières ?
Alhamdoulilah, thani hada l'amr. Ou kunt farhana bihi kthir kthir kthir. Ma taqdrish tsawr el farhana ta3i nhar li datni diwan thaqafa. والسيدة شافية والسيد بالأخضر نشكره كثير وعمري ما نسهله قلت له فرنسا لما طلعني لفرنسا وما درتش حفلة ولا اثنين الحمد لله درت تورني وقع كانوا معايا وقع بال كما نقولوا اللي في فرنسا سواء من السلطات اللي ثم كانوا معنا يمشوا معنا الوفد تاعنا وينظموا في الحفلة ثم والحمد لله لقى نجاح غير عادي يحبوا الصحراء ثم يحبوا اللبسة تاعنا يحبوا غناء قاع الجزائري
هو النيلي هو بدوي Beaucoup d'hommes chantent le genre bédoui. Les femmes, très peu.
كنت زوليخة كانت أنا اللي نعرفها. ربما أنا ما نعرفش ياسر. وبقار حدا كانوا يغنوا الموال تاع الصحراء. اون جينيرال كانوا يعموا به الصحراء كافة. إحنا عدنا أنعم وجرمون يعطيك الصحة. لكن الشيء اللي ندير فيه دروكا ولات كيما طبيب. بكري كان جيناليست دروكا يقول لك نروحوا ديريكتومون سبيسياليست. أنا نخدموا في مع العلم أني ما غنيش غير النايلي. نحب نغني قاع طوبو نحب قاع طوبو الجزائريه ونحب نغني بحال
هكا شنو نسمعوا جوليا تغدي الاندلس
بوكو با نحب اي تراث جزائري نحترمه ونحبه ونتمنى باش نخدمه ويكون لي عظيم الشرف بوكو با على هلالا نحب الاندلسي
alors Julia vous chantez on peut trouver vos cassettes et vos CD sur le marché quels sont vous avez d'autres projets
في الحق سألتني سؤال شوية حساس للأسف الشديد أنا مشاريع قاعدة وقفت لأنه للأسف الشديد عندي حالة وراح نقول لك عليها بنتي وعندي طفلة واحدة وأنا مرأة ومديت عمري كامل للفن وخدمت بلادي قبل ولايتي وخدمت الجزائر وبينت فني اليوم هذا المرأة حبيت نقول كلمة راني مرأة وعندي طفلة وراني وحيدة بهذه الكلمة سمحوا لي فيها نوجه الناس اللي قادرة ولا السلطات يعاونوني راها بنتي عندها ان كونسير في المخ حاجة كبيرة يعاونوني بالفيزا ولا ياخذوا الطفلة بريزون شارج وماهيش بنتي ونقول هذه راها ميش بنتي راها بنت الجزائر
D'autres histoires vous seront contées la semaine prochaine, si Dieu le veut, et si vous êtes là, alors sera bien.